Il est dur de travailler pour un maître, mais il est encore plus dur de n'avoir pas de maître pour qui l'on travaille. Travailler dur, savoir s'amuser, c'est le secret de la réussite. Madame, monsieur, auditeurs et auditrices, bienvenue sur la radio de l'avenir à l'écoute de votre émission Interligne. Interligne de ce jour vous aligne une fois encore sur les lignes du quotidien parce que Interligne, c'est votre émission qui fouille et feuillette chaque semaine le train-train quotidien de la population. C'est une nouvelle édition d'Interligne qui prend son envol. Édition d'Interligne accompagnée de nouveaux défis, de nouveaux enjeux, de nouvelles ambitions avec un nouveau visage. Vos rubriques habituelles avec une légère modification sont au rendez-vous. Il s'agit de la rubrique réservée aux incubateurs du Sahel en lieu place de soir au village. Et pour le reste, tape à l'œil et vie de ton sac sont maintenus avec leur caractère attrayant et captivant. Dans le cadre de la rubrique « Les incubateurs du Sahel », nous avons déroulé le tapis rouge à un jeune entrepreneur. Il est le promoteur de la jeune start-up ESB, entendez, établissement solide bâtiment. Lui, c'est Nestor Nada Massaï. Il nous parlera entre autres de sa start-up, de l'idée fondatrice et des difficultés auxquelles il fait face. Tape à l'œil s'intéresse au phénomène TikTok, cette application qui fait fureur dans le monde digital. Vous suivrez dans cette édition d'Interligne des témoignages captés auprès des jeunes de la ville de Maroua. Inondation, noyade dans les lits de maillot, route impraticable, voilà à quoi ont droit les populations lors des saisons de pluie. Que faut-il faire pour éviter de tels incidents causés par les pluies dans la région de l'extrême nord? Vous suivrez quelques solutions palliatives dans Vie de ton sac. Maxino est à la console audio numérique, David Bayan à la supervision générale. Je suis Lidol Wawa, au micro de présentation, installez-vous confortablement. La meilleure raison pour lancer une entreprise est de créer du sens, de créer un produit ou un service qui contribue à améliorer les conditions de vie des populations. C'est exactement ce que fait Nestor Nada Massaï à travers sa start-up dénommée ESB, entendez, établissement solide bâtiment. Créé en avril 2020, Nestor Nada Massaï a surmonté beaucoup d'épreuves. Établissement solide bâtiment, c'est quoi exactement? Des précisions dans un instant avec son promoteur, Nestor Nada Massaï. Monsieur Nestor Nada Massaï, merci d'avoir accepté notre invitation.
Oui, merci beaucoup.
Vous êtes le promoteur de la jeune start-up ESB, établissement solide bâtiment. Dites-nous, c'est quoi exactement cette entreprise?
Alors, l'entreprise solide bâtiment, comme vous l'entendez, c'est une entreprise qui fait dans le BTP, le génie civil, c'est-à-dire le bâtiment, travaux publics. Et ça n'inclut pas aussi la prestation des particuliers. En fait, notre grand cible, bien vrai, c'est les marchés publics, mais pour bien commencer, on commence aussi avec les prestations des particuliers, parce que c'est pas facile pour une jeune entreprise d'entrer subjugu dans le marché public. Il faut d'abord commencer parce que pour faire dans le marché public, ça demande beaucoup de capital. Et pour cela, il faudrait que vous ayez un maximum avant de se lancer et La meilleure façon de commencer, c'est commencer avec des prestations des particuliers, des marchés de gré à gré, qui vous permettra en fait d'avoir quelque chose dans votre cash flow. Parce que quand je parle de cash flow, je parle de mouvement bancaire en fait. C'est ça qui est un peu important parce que c'est le chiffre, en fait, votre chiffre d'affaires qui vous permettra de voir votre imposition dans une entreprise. Si votre imposition, comme nous maintenant, l'entreprise Solide Bâtiment, quand vous essayez de voir nos documents fiscaux, vous allez constater que nous sommes dans un régime d'imposition simplifié. Et pour passer maintenant du régime d'imposition simplifié à réel, il faudrait au moins avoir 50 millions dans son compte bancaire. Et c'est de là où votre entreprise est un peu vue dans le marché public, si je peux dire ainsi.
D'accord. Et quand est-ce que votre établissement a été mis en place?
Bon, l'entreprise a été mise en place, je pense que c'était le 23 avril 2020. Alors, cette histoire a commencé par juste une idée comme ça. C'était dans ma chambre. J'ai pensé de faire quelque chose. Alors, je me suis dit, avant de commencer, il faudrait d'abord dénommer l'entreprise. Quelle serait d'abord la dénomination, le nom de l'entreprise? Oui, j'ai dit, bon, Solide Bâtiment. J'avais dit d'abord premièrement Solide Maison, mais j'ai vu comme si ça ne donnait pas un peu. J'ai dit Solide Bâtiment, en fait. Et maintenant, oui, Solide Bâtiment, quelle serait encore notre devise qui peut, parce que la devise montre déjà, en fait, un peu l'image de l'entreprise. J'ai dit établissement Solide Bâtiment, travail, confiance et dureté. Donc, il y a d'abord le travail acharné que l'entreprise doit travailler d'arrache-pied, la confiance en face à nos prestataires et nos bénéficiaires aussi, et la dureté, c'est-à-dire la durée de vie des bâtiments qu'on conçoit. Donc, c'est un peu ça.
C'était aussi un peu ça l'idée fondatrice même, bien.
Oui, c'était un peu ça parce que j'ai commencé d'abord, avant même de mettre établissement pour que ça soit légal, l'État reconnaît, j'ai commencé d'abord par un groupe, Solide Bâtiment. Parce que j'ai vu que de nos jours, les gars se lancent seulement comme ça et puis peut-être parce qu'il a abandonné l'école ou bien il ne sait quoi faire, il entre à faire dans la maçonnerie. Du coup, on entend... Oh, c'est si j'ai travaillé, on ne m'a pas rémunéré, et ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas créer une entreprise auquel on va recruter les jeunes et ça serait bien structuré? Là aussi, ça nous permet d'évoluer l'innovation, en fait. Parce que moi, je me dis toujours le mobilier de demain, une entreprise qui fait dans l'immobilier de demain.
Et est-ce que vous êtes le seul à l'avoir fondé?
En fait, je ne suis pas quand même le seul à fonder parce que l'idée est là. Et puis j'ai dit, je ne peux pas quand même m'hasarder, me lancer dans cette mer de risque sans toutefois avoir aussi des compagnons. Alors j'ai commencé cela. Et j'ai appelé d'abord mes amis et ceux qui font la polytech ici. À l'École normale supérieure polytechnique de Maroua. Donc, c'est-à-dire deux ingénieurs que j'ai commencé avec eux. L'un, il faisait le génie civil architecture. Donc, c'est lui qui faisait au préalable le plan, en fait, le dessin, la 3D, le 2D, le rendu, tout ça, la maquette. Comme tu vois un peu ceci. Et l'autre aussi, c'était un géotechnicien. En fait, lui... Avant de commencer, si on gagnait un marché, avant de commencer, lui, comme c'est un géotechnicien, en fait, il étudie le sol. Est-ce que sur ce sol-ci, on peut déposer une rez-de-chaussée juste ou bien est-ce qu'on peut déposer un R+2 NR plus 1, NL plus 3 ou bien une gratte ciel. Donc c'est un peu ça, avec la collaboration aussi de d'autres techniciens. On a formé toute une équipe. Oui, ah, pour qu'on soit un peu complet, quoi.
Ok. À quelle occasion, c'est-à-dire quand est-ce que l'idée prend réellement corps?
Alors, l'idée prend réellement corps quand je me suis décidé maintenant d'aller mettre ça légal, en fait. Je me rappelle, c'était le 1er avril 2020. Je me suis dit, alors, je dois aller demander comment, quelles sont les procédures, en fait, les modalités pour créer une entreprise de droit camerounaise. Alors, je me suis, par les renseignements, on m'a dit que ça se passe au niveau de CFCE, donc Centre de formalité de création des petites entreprises. Alors, je suis allé là-bas. On m'a bien accueilli. On m'a donné toute une fiche à remplir et les modalités qu'ils font. Alors, je le fais jusqu'à, je l'ai terminé. Et qu'on m'a donné une attestation de création d'entreprise. Donc, c'était le 23 avril 2020 où maintenant l'entreprise
était légale.
Oui, était légale. C'est un peu ça.
Vous avez fait des études de base ou alors vous vous êtes simplement lancé dans ce domaine sans évaluer préalablement les risques de mise en place de ce procédé?
Alors, moi, je me suis toujours dit que dans la vie, qui risque rien n'a rien. Alors, je n'ai pas quand même beaucoup mené des études concernant le domaine que je me suis lancé, mais je sais vraiment que dans le BTP, c'est un domaine à risque. Pourquoi? Parce que je prends un exemple. Donc, je n'ai pas des ingénieurs qualifiés ou bien je n'ai pas des techniciens qualifiés. Et puis voilà, on construit un R plus 1, c'est-à-dire un étage de niveau 1. Et puis, comme on n'a pas construit avec les normes qu'il faut, et puis ça ne dure pas et ça a des failles ou bien le mur tombe sur un individu. Vous voyez à quel point ce risque peut déjà m'entraîner en prison. Donc c'est ça, moi je me suis basé sur la qualité des personnels, mais sans toutefois voir le risque financier quelconque. Est-ce que ce projet va me demander beaucoup de financement ou bien est-ce que je dois faire un business plan, chercher le financement? Non, loin de là. Moi je l'ai commencé comme ça, avec mes petites économies. Je l'ai commencé avec des personnels. Je l'ai motivé à chaque moment, on travaille comme ça, ainsi de suite.
Quel type de service rendez-vous exactement?
Alors, nous, on fait dans la prestation de services et le commerce général. Donc, la prestation de services, il s'agit maintenant de prendre un marché et de le réaliser, soit peut-être la construction. Si c'est le marché public, en fait, la construction peut-être d'une salle de classe ou bien d'un hôpital quelconque. Oui, on fait aussi la prestation aussi des particuliers, comme je l'ai dit. Et beaucoup plus maintenant, pour le moment, c'est ma cible, en fait. Je fais dans la prestation des services des particuliers.
Expliquez-nous un peu.
Oui. La prestation de services des particuliers, en fait, il s'agit de faire les prospections, d'aller souvent de bureau en bureau, de porte en porte. On fait notre promotion immobilière. D'ici le mois prochain encore, on va lancer une autre promotion qu'on est en train de préparer déjà. Là, dès qu'on a, on laisse nos cartes de visite, on explique comment nous, on procède, jusqu'à réaliser nos marchés. On montre tout cela et c'est ça alors qui, parce que dans la prestation de services par des particuliers, là, il est facile de gagner un peu. Pourquoi? Parce que là, dès qu'on évolue un peu, on demande aux bénéficiaires de nous donner quelque chose comme avance pour évoluer en fait. Mm. Alors que si c'était dans le marché public, peut-être s'il s'agit d'un marché de 5 ou 10 millions, on va te demander d'exécuter du début jusqu'à la fin avant le virement. Mm. Donc c'est un peu compliqué pour nous, les jeunes entrepreneurs débutants ou bien les entreprises qui se lèvent, la start-up en fait.
D'accord. Oui. Quel est le profil de votre clientèle? Vos clients sont-ils des jeunes comme vous, des hommes d'affaires, des hommes, des femmes?
Ok, je dirais ceci, n'est-ce pas? Mm-hmm. Vous-même, vous savez que c'est pas du tout très évident quand même de si je vous dis que c'est en majorité que c'est les jeunes, mm-hmm. parce que dans le domaine de l'immobilier, vous savez, c'est un investissement qui demande assez de moyens. Parce que même construire toute une petite chambre comme ça, ça va vous demander au minimum 500 000 francs. Vous voyez qu'un jeune faire sortir souvent 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, donc ce n'est pas du tout facile. En fait, nos clients cibles, en fait, ce sont souvent des personnes qui ont l'âge mature, des personnes qui investissent, si on peut même dire les hommes d'affaires, les investisseurs qui investissent dans le domaine de l'immobilier, donc qui construisent des cités, des maisons, des appartements à louer, donc pour faire des investissements qu'on appelle les investissements à long terme. D'accord. Donc c'est un peu ça.
Et est-ce qu'ils sont quand même satisfaits après le travail?
Oui, je pense qu'ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits. Je me rappelle, j'ai fait une prestation au quartier Zilengsi, à côté de l'école maternelle Arc-en-Ciel. Mm-hmm. Là, c'était pour un docteur, là, le construit. Et pour me dire merci, il est venu juste dans ma famille pour dire ma famille que vraiment, ce jeune homme, voilà, il a commencé. On n'avait pas confiance en lui parce qu'on voit que c'est un jeune homme comme ça qui commence et que d'habitude, lui, il a fait les remarques dans les chantiers, il y a toujours ce problème de paiement et consorts. Mais lui, avec lui, on a géré, il n'y avait pas de problème. Et je lui ai dit même dès le début que moi, je ne peux pas faire ce genre de choses parce que je me suis donné dans cette aventure de faire carrière dans ce domaine et je ne peux pas quand même à mon âge de fleurs et puis commencer à faire de n'importe quoi. Donc vraiment je pense que les clients sont satisfaits et vous savez aussi dans ce domaine, soit vous entrez par la mairie, soit vous avez des personnes qui peut-être vous font le marketing ou bien de bouche en oreille. Mmh. Et moi, je suis entré par le mérite et je vois que du jour au lendemain, je ne fais que gagner les marchés. On m'appelle de gauche à droite pour réaliser, pour faire des prestations. Ça veut dire qu'on dit souvent que même les murs ont des oreilles. En fait, si tu fais quelque chose de bien, là, le bien te suivra toujours. On va toujours t'appeler. Mais dès que tu commences à faire du n'importe quoi, alors tu vois, si du coup, les gens vont t'abandonner. Donc, c'est un peu ça.
Généralement, les jeunes start-up ont une durée de vie assez courte. Alors, comment comptez-vous pérenniser votre jeune établissement?
Alors, moi, je compte à pérenniser mon entreprise. Par déjà, qu'est-ce qui en fait tue même les entreprises nouvellement créées? Parce qu'on dit souvent que les entreprises nouvellement créées meurent avant leur cinquième année, avant 5 ans. Et si vous dépassez déjà les 5 premières années, c'est-à-dire que vous avez franchi déjà les difficultés en fait. Parce que même moi, au départ, fallait qu'un peu que je laisse ça. Parce que dès que j'ai commencé, j'ai créé l'entreprise, les papiers étaient légaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on nous impose, il faudrait avoir le CIES en fait. Et puis, j'ai ouvert mon bureau, tout âgé, j'ai équipé cela. Mais je me rends compte que 1 mois, 2 mois, 3 mois, personne ne vient me dire même bonjour dans mon bureau. Alors que moi, je me croyais déjà arrivé en tant que directeur général d'une entreprise. Et puis, donc, j'étais là dans mon bureau, mais personne. Quel découragement, quelle désolation, quel regret. Vous voyez, à ce niveau, si vous n'avez pas...
Bon moral.
Oui, moral, c'est que vous tombez. Et maintenant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque fin du mois, le bailleur vient. Il faut donner l'argent de location, il faut payer l'argent de loyer. Et chaque mois, il faut aller déclarer au niveau des impôts, tout ça. Et on ne trouve pas encore, les clients ne viennent pas. Il fallait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant aller prospecter de bureau en bureau, de maison à maison pour dire voilà, voilà. Donc, toucher un peu le terrain, c'est là où j'ai compris qu'il faut. Et vous voyez que si vous ne parvenez pas à supporter toutes ces charges, le loyer, la fiscalité, les taxes, tout ça, voilà, il faudrait aussi rémunérer les personnels. Tout ça, là, vous allez dire que bon, ces choses-là même vraiment, c'est... Oui, on laisse tomber et vous tombez. Alors qu'il y a des choses qui viennent bien avant, devant, des bonnes choses. Donc, c'est un peu ça. Il faut bien armer le moral, c'est ça. L'entrepreneuriat, en fait, si on n'est pas vraiment bien, si on n'a pas cette morale d'un guerrier, là, on peut tomber si vite. Vraiment.
Okay. Et qu'est-ce que vous comptez exactement d'en faire maintenant, vous, pour que ça dure longtemps et tout et tout?
Alors, pour que ça dure longtemps, moi, je me suis dit ceci. Dans la vie, il faut rêver grand. Rêver grand, mais commencer petit. C'est ça, en fait, qui nous tue. On veut commencer du jour au lendemain, et puis on veut voir que, bon, je me dis, peut-être je commence aujourd'hui et que demain, je veux que je suis en train de rouler dans une Range Rover, et puis vous voyez cette... zone de confort, en fait. On veut cette zone de confort en tant que directeur. Mais non, loin de là, il faudrait d'abord commencer petit par étapes. Il faut d'abord accepter de souffrir sur le terrain, vous-même. Parce que ce qui nous tue souvent, c'est l'orgueil. On se dit que bon, je suis déjà directeur d'une entreprise et que je ne veux pas aller sur le soleil et puis je délègue les gens. Alors que c'est dans le terrain que tous les détails se passent. On n'est pas sur le terrain. La rigueur et surtout la fidélité dans ce qu'on fait. La fidélité dans ce qu'on fait. Il faudrait que si vous êtes un jeune, vous avez une entreprise et que vous voulez que votre entreprise dure, il faudrait que même quand on vous voit comme ça là, au lieu de vous appeler par votre nom, on vous appelle par votre entreprise. Donc c'est un peu ça. On vous appelle par votre pour dire que le gars, si il a accepté de mourir corps et âme avec cette entreprise. Je pense que toutes ces personnes, tous ces grands investisseurs ont commencé ainsi.
Là, on a constaté que la plupart des projets novateurs comme le vôtre sont généralement très vite copiés. Alors, comment faites-vous pour protéger l'idée de votre entreprise?
Alors, je dirais ceci. Bon, on ne peut pas quand même dire dans une entreprise de protéger soit en ne pas publier ou en ne pas en fait faire une promotion pour que la population cible. Ça, c'est ce que vous faites. Parce que là, on est en train de prospecter, on est en train de chercher des clients et cependant, on ne peut pas quand même cacher le produit, n'est-ce pas? Mais seulement nos informations utiles. Donc, nous avons aussi ce forme de codage de notre langage dans notre entreprise. Et on a aussi nos correspondants, peut-être par en cause, peut-être on a un groupe de WhatsApp entre nous. Donc, on cause donc nos difficultés et nos atouts, en fait, nos avantages professionnels ou quoi. Et là c'est un secret professionnel qui reste entre nous. Mais s'il s'agit de faire des prospections, des publicités, de marketing au public, là, on le fasse. Mais les non-secrets professionnels restent dans l'entreprise. Parce que quelqu'un peut, si on laisse nos informations utiles ou bien certaines informations comme ça, d'autres personnes peuvent venir et copier, innover.
Oui.
Parce que nous sommes dans un monde où il suffit seulement de voir une entreprise, tu copies et tu innoves, tu viens dépasser
l'autre
promoteur qui avait commencé. Donc, les informations sont très capitales pour une entreprise parce que si juste vous laissez vos informations divulguer et puis une autre personne vient, il innove, alors là, il vous tue. Oui, vous perdez.
Et est-ce qu'il n'y a pas eu de tentative de plagiat de l'idée de votre belle entreprise?
Alors, effectivement, il y a eu cette tentative. Mm-hmm. Je me rappelle quand on faisait des rencontres ici dans nos bureaux, il y avait juste un gars qui était venu. Juste, il était de passage, il a observé. Et puis, il nous a posé certaines questions. Alors, ces questions, c'était les questions pièges. Comment les procédures, tout ça, de la création d'une entreprise, tout ça, on a dit là, bon, là on ne cache pas, on veut que le monde évolue, on veut que le monde innove, on a donné tout ça. Mais juste que lui, au lieu de voir aussi peut-être dans son domaine où il est à l'aise, ou bien il peut faire, il a aussi pris dans ce domaine-là, il copiait, mais c'est juste que il n'a pas compris. Pour cela, il faudrait rester, il faut avoir toute une messe de personnes, toute une messe d'ingénieurs, de consultants, en fait, des informaticiens, tout ça, pour mettre sur pied une entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est pas une vente de beignets, c'est bien structuré. Et pour cela, il faudrait avoir toute une communauté pour le faire. On ne peut pas le faire seul. Il a commencé 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois et puis il a abandonné. Donc, pour dire que voir et copier, c'est bien, mais c'est l'innovation en fait qui est plus importante. C'est l'innovation en fait qui est plus importante. Donc, dans l'entreprise.
D'accord. Et là, à supposer qu'un banquier, un homme d'affaires, nous écoute présentement, quel message voudriez-vous les adresser?
Alors, moi, je voulais dire qu'il faudrait que les investisseurs, les hommes d'affaires et même les banquiers, parce qu'on a toujours ce problème-là, les start-up, c'est-à-dire les entreprises qui sont nouvellement créées, ont ce problème. Et notre problème commun, c'est le financement. Et vu le financement, et quand déjà on veut commencer ou bien on veut gagner un marché, peut-être dans un marché public, dans le BTP, il te faut avoir au moins un minimum de 5 ou 10 millions de francs CFA. Et tu n'en as pas. Qu'est-ce que quand tu viens demander au banquier, il sait bien que tu as une entreprise, mais il ne va jamais te donner. Même pas 1 million pour t'aider, pour te lancer. Il va demander ton mouvement bancaire. Il va voir d'abord ton cash flow, c'est-à-dire le mouvement. Parce que l'année passée, j'avais réussi. Je voulais, en fait, j'étais déjà au bout de prendre un marché de 10 millions concernant le reboisement. Et parce que j'avais expliqué à la commune que j'étais capable, n'est-ce pas, d'employer les jeunes pour les vacances, pour faire le reboisement et les rémunérer, qui pouvaient les aider à payer leur fourniture scolaire. Là, c'était quelque chose de bien. Et toute la communauté ont aimé cela. Mais il fallait au moins un minimum de 5 millions pour que moi, je commence à acheter les bois pour reboiser et rémunérer aussi tous ces vacanciers, ces jeunes-ci-là. Mais quand j'arrive au niveau de la banque, je trouve mon gestionnaire, j'explique mon problème. Il me dit non. Jusqu'à ce que j'ai pris le titre foncé de notre maison familiale, jusqu'à le donner. Il a refusé. mais dit que non, pour qu'on te donne un crédit dans une banque, il faut que toi-même tu sois bancable. Si tu veux peut-être 5 millions, il faudrait qu'on voit de l'amont en aval, tu faisais les transactions, ces mouvements bancaires qu'on appelle le cash flow. Peut-être un jour tu es venu, tu as déposé 100 000, tu es venu retirer tout ça, on voit ce mouvement-là. Est-ce que toi tu es bancable? Est-ce que si on te donne oui, tu pourras réellement rembourser. Voilà en fait ce problème qu'on rencontre. Et concernant aussi les investisseurs, de nos jours, vous savez que le monde est terrible. Et les investisseurs ont peur. Auparavant, c'était facile de financer les jeunes qui avaient les projets. Mais aujourd'hui, quand on voit, on peut donner à un jeune, il va te présenter toute une belle projet comme ça. Après, quand tu le donnes l'argent, il part, oui, s'enivrer, et puis avec les petites chéries, et puis voilà, disparaître. Cet abus de confiance avec le monde où nous sommes, de méfiants, de mécontentement, vraiment, c'est pas facile pour qu'on trouve des investisseurs qui peuvent investir. Ils sont là. Ils sont là, mais... Oui, c'est une question de confiance. Donc, je dis vraiment, par ma voix, je dis à ces investisseurs, à ces banquiers-là, si ils peuvent vraiment trouver ce moyen efficace, non seulement pour financer les jeunes, mais aussi à trouver comment aussi rembourser cela. Ça fera aussi notre fierté et la fierté de toute une jeunesse, en fait, qui c'est souvent qu'ils s'enivrent dans les débauches, dans l'alcool, parce que souvent ils se disent qu'ils n'ont rien à faire alors qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Ils se disent abandonnés.
Et oui, ils se disent abandonnés à eux-mêmes. Ils sont là, ils ont les diplômes, ils sont là au quartier, et puis voilà, vraiment.
Au regard de votre démarche et de votre entreprise qui se met en place progressivement, avez-vous un message à l'endroit des jeunes qui hésitent encore à se mettre à leur propre compte?
Alors, je dirais à tous ces jeunes qui m'écoutent aujourd'hui que d'abord, le rêve, c'est gratuit. Le rêve, c'est gratuit. Je dis ça à haute voix, le rêve, c'est gratuit. Il ne nous coûte à rien de rêver, et surtout de rêver grand et de commencer petit. Comme nous dit l'homme le plus riche de l'Afrique, Aliko Dangote. Donc, il faudrait commencer, parce que tout commence dans son mindset, c'est-à-dire dans sa mentalité, dans son état d'esprit. Alors, moi, j'ai commencé ainsi. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et il faudrait que, pas que ces jeunes-là, après avoir eu leur diplôme, ou bien ils ont fait des formations professionnelles, et qui chôment à la maison, au quartier, qui sont là souvent, avec qui discutent un morceau de savon avec leurs parents, alors que normalement, eux, ils devaient aussi être autonomes, qu'ils doivent bosser, qu'ils doivent vraiment bosser, parce que la vie, il y a des hauts et des bas, et sauf celui qui va persévérer, qui va réussir. Donc il faudrait que ces jeunes-là, pas qu'ils se lancent dans les débauches, dans l'alcool, à sombrer, mais ils se lancent dans leur business, dans leurs entreprises, dans tout ce qu'ils veulent entreprendre. Parce que majoritairement, j'ai fait des conférences entrepreneuriales avec des jeunes. Et à chaque fois, quand je les demande, qu'est-ce qui vous empêche à lancer votre business, ou bien votre... Tout le monde, votre projet, j'ai toute une idée là, c'est là. C'est-à-dire, quand il te dit son projet, tu vois voir que c'est belle. Mais il va te dire, problème de financement. Tu penses que qui va te financer? Qui? Si tu n'as pas comment. Raison pour laquelle, quand vous voyez maintenant, on ne demande pas beaucoup plus les CV dans les entreprises, surtout dans les entreprises privées. L'expérience. Qu'est-ce que tu sais faire? Si maintenant tu viens, tu m'apportes, tu as un business plan déjà que voilà peut-être que tu veux cultiver, faire dans la culture de la tomate. Et que, n'est-ce pas, voilà, je vois ton business est vraiment détaillé. Et une autre personne vient, il me dit que lui aussi, il fait dans ce même domaine-là, dans la culture de la tomate. Mais lui, seulement qu'il a commencé, il est tombé en faillite. Entre celui qui a une... qui n'a pas commencé et celui qui a commencé, qui est tombé en faillite, moi, je veux financer celui qui a commencé parce qu'il a déjà un peu l'expérience. Et c'est de ça, en fait, qu'il s'agit. L'expérience dans toutes choses qu'on veut. Il faut que on se lance, on prend ces risques-là. Je ne veux pas prendre des risques. Quelqu'un a 100 000 francs, au lieu de commencer avec, il se dit que non, ah, et si je perds, alors que je pouvais acheter des vêtements, acheter un téléphone de marque, et puis si j'investis et que je perds, vous voyez. C'est toute cette mentalité-là que les jeunes, que nous les jeunes, en fait, nous avons et qui nous empêche d'avancer.
Maintenant, si un potentiel client nous écoute présentement, comment peut-il vous contacter? Votre start-up a-t-elle sa page Facebook, son compte WhatsApp?
Oui, nous avons notre entreprise, nous avons notre page Facebook, donc c'est écrit là-bas, la Start-up Mindset, et puis nous avons aussi un groupe de WhatsApp, et tout récemment encore, quand on avait fait une formation sur la production du savon liquide, alors à l'hôtel Rawa, nous avons laissé ce piste-là de l'entrée gratuit, et nous avons aussi informé en présentiel, par des contacts, par des prospections, et aussi par virtuel. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas bon nombre de personnes qui étaient venues, alors que c'était quelque chose de gratuit. On venait acquérir une expérience gratuite. Mais désolé, on ne voit pas les jeunes. Ça veut dire que d'une part, mais si on disait que c'était en fait la fête où il y avait les boissons et consorts, on devait venir. C'est-à-dire nous-mêmes, on n'a pas compris en fait le sens premier de la réussite d'un jeune. Donc je pense que on a notre email, on a nos pages Facebook, notre groupe WhatsApp par lequel on peut nous contacter à travers nos affiches publicitaires, les cartes de visite, tout ça qu'on distribue avec les prospections. Et je tiens aussi à vous dire merci parce que par ce canal, c'est une très grande prospection aussi. Ça, parce que dès qu'on nous écoute comme ça sur une antenne là, ça montre déjà notre crédibilité, notre fiabilité, et ça peut aussi augmenter notre prospection. Ça peut augmenter notre communauté de prospection. Donc notre numéro là, il passe 24/24, hein, parce que là quand on se dit entrepreneur, on ne dort pas. Notre numéro orange, je donne le 656-68-84-02. Le 656-68-84-02.
Monsieur Nestor Nada Massai, Radio Série vous remercie pour votre disponibilité.
Ok, merci. C'est moi qui vous remercie autant. Vraiment merci.
Entreprendre nécessite, amis auditeurs, beaucoup de ténacité, d'abnégation et de détermination. La fonction publique ne pouvant accueillir tous les jeunes, bien qu'étant diplômés, l'entrepreneuriat vient et apparaît comme une solution palliative au chômage. Et les jeunes, c'est plus qu'une histoire d'addiction. Visionner des vidéos sur cette application et même en produire est devenu le passe-temps favori de plusieurs jeunes ici, dans la ville de Maroua. Le divertissement à travers le comique et les blagues présentes dans ces vidéos est ce qui captive nombre de ces TikTokers. Bien qu'il souligne également les enseignements à tirer dans cette plateforme. Écoutons quelques-uns d'entre eux.
TikTok est pour moi une application qui permet de faire des petites vidéos et autres. Pour moi, ça me permet de me divertir et autres. Et en plus, j'ai beaucoup de likes, ça me plaît. J'apprends beaucoup de choses en fait à vaincre mes peurs, à avoir des amis et autres. Beaucoup de choses en fait.
Bon, ce qui m'attire TikTok, ce qui me plaît, c'est que je suis d'abord de nature une personne qui aime trop faire rire les gens. Donc, du coup, quand mon entourage est joyeux, en train de rire, bon, ça me plaît. Et ce qui m'a vraiment poussé à TikTok, TikTok a été comme un canal. Donc, le côté comique est aussi le conseil. Parce que dans les vidéos, ce sont des conseils qu'on transforme un peu en sous forme de comique. Donc, pour faire passer aux jeunes. Parce que de nos jours, si tu donnes simplement des conseils à quelqu'un, c'est difficile de comprendre. Mais si ces conseils sont un peu amusants, déjà, c'est un peu plus attirant.
TikTok est comme une école de formation parce que à TikTok, on retrouve des vidéos de formation en ligne, comme la fabrication de certains mets, les apprentissages tels que comment faire des tresses. Comment s'habiller, et puis des leçons de vie qui peuvent nous aider quotidiennement.
L'application TikTok, c'est devenu comme un hobby pour moi, donc je ne peux m'en passer. Donc je fais les vidéos chaque temps. Si je n'ai rien à faire, je pars, je fais les vidéos. Là, je gagne en connaissance. Parlant du divertissement, oui, je gagne en connaissance. Pourquoi? Parce que quand tu entres dans TikTok, on te montre des domaines. Par exemple, le domaine de la comédie, de la musique, ainsi de suite. Donc, moi particulièrement, je pars dans le domaine religieux. Donc, je pars, je regarde des vidéos religieuses, ainsi de suite, j'apprends. Alors, donc, TikTok est devenu un enseignant pour moi.
Moi, c'est Aldi. Je fais des vidéos TikTok, je les poste et j'aime bien la comédie, c'est ce qui me motive à faire des vidéos TikTok et je veux ressortir mon talent à travers ces vidéos-là parce que ça m'aide beaucoup à fructifier le talent qui est à moi. Moi, je ne les fais pas pour des raisons d'argent, c'est juste que je me plais dans ça et j'aimerais avec ça découvrir mon talent, puis peut-être dans l'avenir, je vais me lancer dans la comédie pour me faire de l'argent là. Moi, je considère TikTok comme un moyen de divertissement parce que beaucoup de jeunes y vont pour se divertir pour la plupart et ça plaît beaucoup.
Bien, moi, TikTok pour moi, c'est d'abord une application que j'aime bien vraiment. J'aime bien parce que là, quand tu es sur TikTok, même tes mégas, ça ne bouge pas trop de connexion. Là, les vidéos sont trop courtes. Et également, moi-même, quand je poste mes vidéos sur YouTube, vraiment, j'ai des likes, les gens apprécient beaucoup. Donc, c'est ça qui me blase le plus, en fait. Et TikTok, c'est une application que, vraiment, je n'arrive même pas à expliquer parce que là, ça me permet de me divertir, surtout quand je n'ai rien à faire à la maison. Je prends juste mes écouteurs, je suis seulement sur TikTok. Donc, vraiment, TikTok, c'est une application que j'aime bien, voilà. Il y en a des leçons parce que les gens également postent des choses vraiment très touchantes sur le plan scolaire, même voire même dans la vie en société. Donc vraiment, dans ce sens-là, ça édifie beaucoup plus également.
Dans toute chose, il faut bien savoir tirer le bon côté. Les vidéos TikTok, certes comiques pour la plupart, mais ont toujours à la fin un message bien défini. Il faut juste savoir faire la part des choses. La saison de pluie chaque année fait des ravages dans nos villes. Inondations, noyades, routes impraticables, voilà en quelque sorte ce à quoi on droit les populations dans certaines parties de la région de l'extrême nord. Pour donc éviter ces incidents, il existe des solutions. Bitumer les routes, étudier le sol avant toute tentative de construction, sensibiliser la population sur les dangers liés à la fréquentation des maillots lorsqu'il pleut. Voilà en quelque sorte des solutions proposées par le public à qui nous avons tendu notre micro. Écoutons-les.
On peut réparer les routes, c'est-à-dire rembler les fossés, donc pour éviter que les eaux restent là-bas. Donc on peut inviter les autorités à voir cela, puisque beaucoup de routes sont cassées et lorsqu'il pleut, l'eau reste aussi. Donc c'est ça pour réparer.
Le phénomène des noyades est un phénomène que vraiment depuis un certain temps prend de l'ampleur dans la ville de Maroua. Et c'est avec un grand regret que nous constatons cela. Rien que l'année passée, j'ai eu à constater peut-être 3-4 noyades, que si je m'en souviens bien, au niveau de Ouretiede et Pala et au niveau du pont Orange. C'est surtout au niveau du pont Orange là même qu'il y a eu peut-être 2 à 3 noyades qui se sont suivies successivement. Et vraiment, cela est déplorable. Et pour cela, il est bien aussi d'appeler à la vigilance des parents en question, surtout en ce moment où la pluie essaie un peu de refaire surface donc dans la région d'Amawa. Et cela risque de causer encore le même phénomène que l'année passée. Donc il est de bon temps que les parents surveillent les enfants et qu'ils évitent d'aller dans les zones à risque.
Nos routes qui nous voyons avec des mares d'eau à côté et nos maillots qui emportent habituellement des enfants, cas de décès et de noyades, tout ça qu'on écoute de tous les jours. Moi, je pense qu'ils doivent mettre un système de sécurité auquel, pas que ces enfants-là, ils voient quand le maillot est plein, ils partent se laver là-bas, se plonger, parce que les enfants, eux, ils se disent que c'est normal, alors qu'ils ne voient pas ce risque qu'ils peuvent prendre. Et concernant maintenant nos routes, vraiment, quand vous voyez notre route ici, là, le 2 voies de Kakatar, la route est vraiment impraticable, alors que c'est la ville. Vraiment, c'est très dégueulasse de pratiquer cette route et que c'est une route de la ville.
Au lieu de mettre le sable ou bien les pierres, les gens versent plutôt la saleté. Les ordures de maison, là, les ménagères, là, ils versent ça dans les flaques d'eau. Du coup, d'arranger la route, ça gâte plutôt, ça fait plutôt la poubelle à la place.
Concrètes doivent être faites pour résoudre le problème des eaux qui emportent les enfants pendant la saison pluvieuse. Les parents, surtout les familles, les parents précisément, sont les premiers acteurs qu'il faut sensibiliser, non seulement, mais aussi à leur tour, ils doivent aussi sensibiliser leurs enfants pour qu'ils soient imprégnés des dangers qu'ils courent en allant dans ces eaux. Ils peuvent perdre leur vie, ils peuvent attraper des maladies.
Nous savons tous qu'il y a les inondations dans nos quartiers, dans nos différentes villes. Nous pouvons utiliser, par exemple, les sacs de ciment, introduire le sable dedans et puis verser dans les endroits où on sait qu'il y aurait les inondations. Et pour cela, il y a aussi la communauté Ibun qui peut nous aider en versant au moins quelques bains de sable dans d'autres quartiers pour éviter l'inondation aussi. Pour les enfants aussi, nous pouvons simplement leur dire qu'ils doivent éviter de sortir quand il pleut. Et il faut qu'ils mettent de la propreté un peu partout autour d'eux.
La pluie, grâce divine, cause très souvent des agréments aux populations. Une prise de conscience de la part de celle-ci est donc impératif pour limiter au maximum les dégâts causés par les pluies diluviennes. Il faut travailler dur pour conquérir la terre et dompter la peur qui est à l'origine de l'incapacité. Ce fut un immense plaisir d'avoir été en votre compagnie au durant de cette randonnée radiophonique dans laquelle nous a plongé Interligne. Dans la rubrique « Les incubateurs du Sahel », nous nous sommes intéressés à une jeune start-up, établissement solide bâtiment, en abrégé ESB. Le promoteur Nestor Nada Massai était au fauteuil de l'invité. Nous avons parlé avec lui de son entreprise, de ses projets à venir et des difficultés auxquelles il fait face. Les jeunes et l'application TikTok, on en a parlé dans Tape à l'œil. Vie de ton sac, quant à elle, s'est intéressée à la saison de pluie et des incidents qui l'accompagnent très souvent. Il y avait pour vous servir Maxino à la mise en onde, David Bayan à la supervision générale, Lidl Wawa à la présentation. Je vous donne rendez-vous à l'édition prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.